Bonsoir. Eh bien oui, je suis en compagnie de Guillaume Bopp, que je suis ravie de retrouver à Nîmes. Guillaume, bonsoir et merci de me recevoir chez vous.
Bonsoir.
Merci Guillaume pour cet entretien. Je suis certaine que les auditeurs vont apprendre bien des choses à vous écouter. Pour vous présenter, Guillaume Bopp, je dirais que vous êtes né en 1975, que vous avez suivi des études de philosophie, que votre expérience de la poésie passe par l'aventure de la revue Stalker, publiée par les éditions du Caillou, et nous y reviendrons plus tard. Il faut dire aussi que vous avez assisté John Gelder à la gestion des éditions Parc, John Gelder qui est hélas décédé en 2021. Dire que vous avez écrit des ouvrages à quatre mains avec Mathias Debrenne, le fils de Jean Debrenne, poète responsable des éditions de l'Olave. Et nous parlerons de cette collaboration également. Et puis, dire que vous performez, que vous donnez des concerts poétiques, et vous nous expliquerez cela aussi. Enfin, dire que vous êtes depuis 15 ans bibliothécaire au Carré d'Art à Nîmes et que vous y organisez des rencontres et des lectures avec des poètes. Mais avant de passer aux questions, voici les annonces relatives aux activités de l'association Les Mots d'Azur. Notre prochain rendez-vous, c'est la lecture de Sabine Venaruzzo au château de Moissartou. Ne ratez pas cela, Sabine Venaruzzo est une poète engagée, une poète généreuse, une poète performeuse. Donc, 15 septembre, 19h, au château de Moissartou, allez écouter Sabine Venaruzzo. Revenons à mon invité, le poète Guillaume Bopp. Alors j'aimerais commencer, si vous le voulez bien, par un livre qui m'avait marqué, paru en 2017 aux éditions Propos 2, dont la couverture bleue approche le bleu clin. Un livre intitulé « Coude ». Et qui est le troisième recueil d'une série publiée chez Propos 2, à savoir Vague en 2012, Toi en 2014. Alors voilà trois titres très courts et presque énigmatiques. Quoique, le mot coude suggère soit une partie du corps, soit un virage sur une route, si ce n'est un tuyau. Alors, en lisant ces trois titres, je me suis demandé comment vous les choisissiez justement, ces titres ?
Alors le choix des titres, il est à la fois très simple et très complexe, c'est-à-dire que c'est un procédé de maturation. Pendant tout le procédé d'écriture en elle-même, je n'ai aucune idée du titre. Et finalement, c'est après la fin de la rédaction de l'ensemble du texte, qui forme donc un livre. J'ai remarqué qu'en général, il me faut 25 versions différentes pour arriver à la version finale. Ça se retrouve à chaque fois. Et en général, à ce moment-là, le titre apparaît comme une illumination, comme un flash. C'est très, très rapide. C'est peut-être pour ça qu'ils sont courts, parce qu'ils me passent très vite par la tête et il ne faut pas que je les laisse s'échapper. En revanche, mais on y reviendra peut-être, il y a un livre de ma bibliographie où c'est le titre qui a donné lieu à l'écriture du livre. Voilà, le livre que j'ai écrit avec Mathias Debrenne.
Alors évidemment, je vais vous demander de lire un extrait de ce fameux coude. Et plus précisément un extrait de la deuxième partie du recueil, pour que les auditeurs puissent entendre votre recherche du temps perdu, en quelque sorte. Car bien souvent, c'est le regard d'un enfant que nous suivons, avec qui nous cheminons, et c'est vers l'enfant se retrouver, son regard innocent, que nous allons dans ce livre, dans une ville jamais nommée. Là, je ne fais part que de mon expérience.
Depuis longtemps, depuis les soirs de l'avenue, depuis les trottoirs, droits sous les ambassades qui s'écroulaient sur les côtés, là où les voitures étaient garées. Aux fenêtres noires, le ministère, coquille de ronces et de poussière. sous le palais royal, des chemises, des manteaux, des bagues, à des portants, sous une pluie jamais finie, place du jeu de bal. Rien n'a bougé des années, sans fierté, se perdre les heures, ni riches, ni pauvres, n'ont rien à donner. Avenue de la Couronne, les premières rues du quartier, humbles la nuit, pauvres de mots. Les briques aux immeubles, orangées sous les phares, les fenêtres nues devant les places, ruisseaux pauvres de voitures, parcheminés sans hâte avant de s'enfuir. Les bras des ombres au plus chaud, au plus lointain, leurs regards. Dimanche, enfin, toujours une nuit enneigée. Les doigts croisés filtrent en déshérence, recroquevillés, les mains, la couronne. Le rêve de se dérober, photographe et chambre noire. On croyait la ville sans gloire, ni peine, on y était. Les prénoms tendent à partir, mais ne cessent de grandir. Devant le parc, impassant, dans ses bras, ses joues laquées de larmes, preuve que le monstre n'est pas chimère. Sur le trottoir déborde la maison, au long d'un vague terrain qui griffe le regard, de plus en plus souvent, de plus en plus longtemps.
Merci. Alors, puisque vous nous avez dit que vous faisiez 25 versions de votre travail avant de le proposer à la publication, et d'ailleurs on sent qu'il y a ce travail de précision apporté dans votre texte, enfin il me semble, et qu'il y a donc une recherche de justesse, j'imagine. Comment polissez-vous? Comment est-ce que c'est un travail surtout d'élimination ou de reformulation?
Alors je dirais que c'est en effet plutôt un travail d'élimination, même si le terme est un peu violent. C'est un travail un petit peu de filtrage. Je ne sais pas si le terme est moins violent, mais peu importe. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui passent, des groupes de mots qui s'amincissent, qui passent à l'as, qui sont effectivement reformulés. Enfin, c'est effectivement quelque chose d'assez difficile à décrire parce que, effectivement, ça se fait sur 25 versions successives. Je ne sais pas pourquoi, mais je constate, puisque maintenant, avec l'informatique, j'archive et j'ai 25. J'arrive toujours à ce chiffre-là. Donc forcément, il y a des choses très bizarres qui se passent. Par exemple, la version 8 et la version 12 sont à peu près équivalentes, finalement. Et donc les versions intermédiaires ne servent plus à rien. Enfin, elles ont servi, mais elles ne sont pas retenues. C'est une espèce d'alchimie assez, assez difficile à définir, finalement. Mais c'est sûr que j'ai un peu l'impression de faire du surplace, parfois. C'est-à-dire que les choses sont... Un mot par-ci est retranché, un mot par-là est ajouté, et vice-versa. Et puis, au bout de plusieurs semaines, de plusieurs mois, voire de plusieurs années, le livre finit par sortir de sa gangue. C'est vraiment un processus très long et très énigmatique, évidemment.
Est-ce que les questions, les préoccupations de rythme et de sonorité interviennent dans ce travail de peaufinage?
J'ai envie de dire, en dernier recours, oui. C'est-à-dire que je ne suis pas un auteur qui s'intéresse au premier abord à la question de la fameuse question du rythme et de la sonorité, ce qui est en principe la préoccupation de base de la matière poétique. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas ça en tête, mais dans mon travail d'écriture, ce n'est pas la première chose qui importe. En revanche, au bout du processus d'écriture, il y a des phases de lecture à voix haute pour saisir si... Je ne sais pas si c'est vraiment une question de rythme, mais c'est une question de justesse de ton. Voilà, pour saisir si ça sonne juste. Voilà.
Alors Yann Miralles, un poète vivant pas très loin de Nîmes, en parlant de votre livre « Géomancie » paru en 2019 aux éditions Propos 2, a dit ceci. Les poèmes de Guillaume Bopp ont la curieuse propriété d'opérer un double mouvement d'apparence contradictoire, de prolifération et d'évidement. Alors pour avoir lu quelques-uns de vos livres, je comprends bien pourquoi il affirme cela, mais est-ce que vous pourriez, vous, illustrer cette remarque par la lecture d'un poème qui serait caractéristique de ce double mouvement et de prolifération et d'évidement.
Alors je vais lire le dernier texte de l'ensemble de textes intitulé « Géomancie ». Puisque dans ce livre, il y a une deuxième partie qui s'intitule « Paysage avec passants », qui traite plutôt de du Vésuve et de la ville de Naples. La première partie se raccroche à l'Asie du Sud-Est. À l'instant, on part sous un labyrinthe à tant de noms, qui n'est jamais le même selon les bateaux. Les routes maritimes volent aussi sur la terre et s'allongent dans les rues comme des mendiantes. On croit que des artères creusées pour aller droit aux âmes mérite de descendre de la chambre aux lumières. Elles se disperseront bientôt devant le souffle tiède du fleuve et de la mer qui le soir se délie, car dans leur chair languide les rues sont empruntées par le cortège d'eau rouge de millions de fidèles. Oublie-t-on la calme tempête au cœur nonchalant qui se serre? On ne sait pas, mais se damner, c'est se bannir de sa ville. Car même si elle est en ruine, la maison frappe ses murs aux portes du ciel, et cette paix qui descend force à rester debout dans la mousson du souvenir. Une cité qui ne dit rien n'a jamais vu le jour.
Merci beaucoup. Alors, Géomancie, suivi de Paysage avec passants, c'est le titre exact de ce livre dont vous venez de lire un extrait. Géomancie, encore un titre bien choisi, parce qu'il s'agit de la divination par l'observation de figures formées sur le sol, comme la cartomancie est la divination de l'avenir en tirant les cartes, et comme la chiromancie cherche à lire l'avenir dans les lignes de la main. Alors, que faites-vous exactement? Un travail poétique qui ressemblerait à un relevé d'indices, qui mène à une interprétation, et qui permettrait de peut-être lire, deviner l'avenir?
Alors, deviner l'avenir, je n'aurais pas l'outrecuidance de prétendre pouvoir le faire. J'essaye peut-être de deviner le présent et de deviner le passé. Je m'explique. Je n'écris pas en voyageant, mais j'écris après avoir voyagé. Et finalement, je commence à comprendre que ce que j'écris n'est qu'une histoire de hantise, dans tous les sens du terme, et de hantise par les lieux, et par la manière dont j'ai traversé ces lieux, où on peut dire je traverse, parce que même si j'écris après le voyage, c'est quasiment simultané, au bout du compte. Donc, effectivement, vous parliez d'enquêter, de chercher des pistes, et il y a un peu de ça. C'est-à-dire que j'essaye, à travers les lieux que je traverse, de relever peut-être des lignes de force, d'où peut-être le titre Géomancie, qui fait aussi référence à cette discipline d'origine chinoise. Donc, de relever des lignes de force, j'ai presque envie de dire, même si le mot est un peu, paraîtra un peu mystique, mais la présence d'esprit qui traverse le paysage. Et je suis toujours fasciné par le... Évidemment, comme j'ai envie de dire comme tout le monde, je pense par le passage du temps et la manière dont le temps habite les lieux et où les lieux sont habités par le temps. Donc tout ça fait la matière qui permet de rédiger les ensembles de poèmes qui ensuite donnent des livres. Donc c'est peut-être pour ça que la cohérence et le titre, pour en revenir à ce dont on parlait tout à l'heure, arrivent après coup.
Encore un livre et un travail autour des lieux, c'est ce livre intitulé « Le principe de réalité ». J'aimerais que vous racontiez aux éditeurs l'histoire de ces poèmes, de ces rues que vous évoquez, et puis vous allez nous en lire quelques-uns. Je précise que ces poèmes sont numérotés de 1 à 178.
Alors, le principe de réalité, oui, c'est une expérience très particulière. Alors, c'est un livre qui n'est pas encore édité. En revanche, il est paru sur mon blog, au rythme d'un poème par jour, donc depuis, c'était aujourd'hui le dernier jour d'ailleurs, depuis donc 172 jours. La genèse de ce livre, elle est très très particulière, elle sort de l'ordinaire par rapport à ce que j'écris par ailleurs. Il se trouve que j'ai eu une bourse d'écriture en 2019 par la région Languedoc-Roussillon, enfin Occitanie maintenant, pour la rédaction d'un livre qui s'intitule « Elsen », qui lui est sorti donc en 2022. Qui est un livre habité par les paysages de la Belgique, et des Pays-Bas, et du nord de la France, etc., surtout de la Belgique. En fait, comme souvent c'est le cas, je ne vais pas trahir un grand secret, quand j'ai eu ma bourse, j'avais déjà bien avancé le livre Elsen. Et je comptais tout de même, pour honorer cette bourse de manière tout à fait honnête, allait terminer le livre sur place, en Belgique. C'est pour ça que j'avais eu cette aide. Et est arrivé le confinement, début 2020. Et donc je me suis retrouvé à ne pas pouvoir me déplacer. Donc j'ai mis le livre en attente, le Elsen, puisque je voulais le terminer en Belgique. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Alors, entre-temps, j'ai eu la possibilité d'avoir une résidence d'écriture à la Maison de la Poésie d'Amé. Mais encore une fois, j'étais soumis à la règle du confinement, à l'impossibilité de voyager. Donc je ne savais pas quand j'allais pouvoir me retrouver à Amé. Donc, rongeant mon frein, j'ai décidé d'écrire, en m'interdisant de regarder à quoi ressemblaient les rues d'Amé, d'écrire un poème par nom de rue de cette bonne ville d'Amé. Et ensuite, je me suis dit, quand j'irai en résidence à Amé, j'écrirai un poème par rue d'Amé que je mettrai en regard du poème, j'ai envie de dire, imaginaire, à la thématique imaginaire que j'avais écrit selon la résonance du nom de la rue. Ce qui est arrivé, donc j'ai été en résidence à Amé en juin-juillet 2020, à la fin du confinement. Et là, je me suis heurté au principe de réalité, voilà, d'où le titre. Alors, en sachant que réalité est avec un S dans mon titre. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il y avait évidemment plus de rues que prévu, parce que il y a des communes ont été rattachées à la ville, enfin bon, je vous passe les détails. Et que ce que j'envisageais de faire, c'est-à-dire me balader dans chaque rue in extenso de la ville pour écrire, était physiquement à peu près impossible. J'ai quand même écrit à peu près donc un couple de poèmes, pour dire les choses de manière simplifiée, pour à peu près 178 rues, même s'il y en a plus. Alors il y a des poèmes qui réunissent plusieurs rues, etc., etc. Ce que j'ai trouvé très passionnant à faire dans ce processus d'écriture, c'est de comparer l'imaginaire et l'écriture sur le motif, ce qui donne des choses assez, assez fascinantes, surtout quand on se rend compte que parfois l'imaginaire rejoint le réel. Alors un premier texte qui s'intitule « Rue du chemin de fer ». Rue du chemin de fer, ses deux yeux, de chaque côté, en ligne sur la terre, ses paroles lointaines, l'ennui, la jeunesse, les parlait très bien. Ses paroles parties, restent les yeux, de chaque côté reste la terre, on la fait sienne, on est dedans, vaille que vaille, vivants et morts tout comme, rue du chemin de fer. Un deuxième texte, donc, sur la rue du chemin de fer. L'autel du chemin de fer est blanc, à vendre, triste et lumineux, à la manière du sentiment que son nom évoque. Pourquoi ? Les autels morts et la nostalgie donnent-ils un peu d'éclat à l'heure où ils se posent devant nous? En cherchant à comprendre cela, je croise un article évoquant le confinement du roi de Thaïlande en compagnie de 20 femmes dans un palace. L'autel du chemin de fer est triste et lumineux. Deux petits textes sur la rue Chaineux. Une maison écroulée a droit à une robe pour se couvrir et ainsi disparaît. Dans la terre bleue et noire, la terre tachée où elle se repose, rue Chaineux. Les maisons mortes ne sont pas légion par ici, sauf les imperceptibles, c'est dommage. Il y a là-bas, près du fleuve, une vague écumante de maisons mortes qui veillent sur nous remarquables. Il suffit de s'approcher de l'eau, leurs reflets sont des robes de lin blanc, à l'envers de leur vie de briques rouges. Et un troisième texte inspiré par la rue Chaineux, avec une citation de Yeats. « Les forêts d'Arcadie sont mortes. Partout ici régna la forêt, sauf au creux de son lit le fleuve, autour de lui les plaines où les bêtes s'enfonçaient parfois, tout bougeait au long de l'eau. Dans la forêt une perpétuelle nuit de cinéma, une nuit où on voit se mouvoir les animaux, les feuilles et les reflets qui sortent de la terre, une nuit de cinéma, donc, et de conte. Le dieu qui hantait la forêt savait tout cela, le sait encore, le savait toujours, quand les troncs des chênes glissaient sur le roua, tirés de l'humus comme mauvaise herbe, par les mains de ce petit peuple qui craint le royaume de l'ombre et écoute dans le soir craquer le bois. »
Alors cette rue Chaineux, ça a un rapport avec les chênes ?
Oui, ça a un rapport avec les chênes. C'est pour ça que je parle des forêts d'Arcadie et de la question de la forêt, effectivement. Il y avait beaucoup d'exploitations de bois à Amay, dans les alentours d'Amay.
Alors j'aimerais maintenant qu'on en vienne au quatrain Propagande, paru en 2021 aux éditions Anima. Et j'en lis un qui m'a frappé. Censure les poèmes venus de l'enfer. Viennent les poèmes censurés de l'enfer. Viennent les censures de l'enfer aux poèmes. Censure l'enfer des poèmes venus. Ou bien encore, égaré ne suis pas les poètes. Poète ne suis pas les égarés. Égaré ne poétise pas les suivants. Suivant n'égare pas les poètes. Alors, parlez-nous, s'il vous plaît, du principe qui préside à l'écriture de ces quatrains.
Les quatrains propagande, c'est aussi un travail au long cours. C'est aussi une exception dans mes livres. Alors finalement, il y a beaucoup d'exceptions. C'est un travail que j'ai commencé vers 2015, je crois. J'ai toujours été passionné par la manière dont on peut changer l'ordre des mots dans une phrase, dans un vers, etc. Parmi mes premiers textes que j'ai édités dans des revues il y a près de 25 ans, il y avait déjà ce genre de procédé. Ce qui m'a intéressé, c'est de récupérer des phrases qui ont été prononcées ou qui ont été écrites dans des livres par des personnalités politiques et dans une certaine mesure par des philosophes, par des penseurs. Des personnalités très souvent peu recommandables, puisqu'on retrouve entre autres Hitler ou Ben Laden, enfin des gens comme ça, ou même Jair Bolsonaro, effectivement, et Bokassa, ouais.
Staline,
il y a un florilège assez passionnant d'auteurs. Donc j'ai glissé dans ces quatrains une vingtaine de quatrains qui sont de ma main, mais on ne sait pas desquels il s'agit. Et l'idée, c'est de prendre ces phrases. La seule chose que je me suis permis par rapport aux phrases d'origine, c'est de les mettre à l'impératif, de manière à ce qu'elles aient vraiment un ton de propagande, d'ordre. Et ensuite, donc, de changer l'ordre des mots, de manière à faire dire différemment les choses, voire des choses différentes, et parfois révéler l'absurdité de la formulation de base. Lorsque les mots sont dans le désordre, la phrase est plus intéressante qu'à l'origine, ou a plus de sens. Et évidemment, c'est un ensemble très politique. Mon ami Vincent, qui a édité le texte en 2021, un peu avant, m'avait demandé d'écrire de nouveaux quatrains. Et je me rendais compte que c'était vraiment pas évident, parce qu'il faut quand même trouver la matière. Et heureusement, donc, il y a eu Bolsonaro, il y a eu Trump. L'époque était quand même féconde en j'ai envie de dire, en conneries, quoi. Et donc, surtout à l'époque du Covid, je me suis bien amusé. Et ce que j'aime bien, d'ailleurs, quand je fais des lectures publiques de ces textes, c'est quand on arrive à ces personnages plus contemporains, on sent bien que c'est dans l'air du temps. Donc, le public a plutôt tendance à rigoler, quoi. Et à reconnaître, d'ailleurs, les auteurs. Alors que c'est beaucoup moins évident quand on passe de Staline à Hitler ou à Mao, ou même à certains poètes latins que je cite dans le livre. Je ne savais pas d'ailleurs que Ben Laden avait écrit de la poésie, et les passages que j'ai pris, je les trouvais très beaux. Et ça m'a permis de découvrir plein de choses, enfin la poétesse officielle de Daesh, etc. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails.
Je vous rappelle que vous écoutez Les Mots d'Azur, que mon invité est le poète Guillaume Bopp, qui s'apprête à lire des extraits de Quatrain Propagande.
Vois, ne sois pas aveugle. Sois, ne vois pas aveugle. Aveugle, ne vois pas, sois. Aveugle ne sois pas, vois. Vois et dis tout. Dis et vois tout. Tout voit et dit. Tout dit et voit. Dis tout, sinon tu trahis. Dis, sinon tout tu trahis. Trahis, sinon tout tu dis. Trahis tout, sinon tu dis. Sois partout et nulle part. Ne vois rien et vois tout. N'écoute rien et entends tout. Sois tout et nulle part. Ne vois tout et vois rien. N'écoute rien et entends partout. Sois nul et toute part, écoute tout et ne vois, vois rien, n'entends rien et vois partout.
Merci pour cette lecture. À l'écoute de ce que vous venez de lire et d'autres extraits que vous avez lus tout à l'heure aussi, il m'apparaît, Guillaume Bopp, que vous êtes un poète subversif. Vous avez dit poème politique. Est-ce que la poésie est le bon média, le bon vecteur, le bon véhicule pour passer ce genre de message?
J'ai envie de dire que la poésie est le bon vecteur pour faire passer tous les messages. C'est peut-être le meilleur vecteur. Il suffit de voir comment on continue à lire ou à dire des poèmes qui ont 2 ou 3 000 ans et à les trouver contemporains. La question de la politique, de l'engagement, pour employer un mot bien connu. Dans la poésie, c'est à prendre évidemment avec des pincettes. À titre personnel, même s'il y a des personnes pour qui j'ai de la sympathie, j'ai beaucoup de mal avec la poésie documentaire. De dire que la guerre c'est pas bien, que les migrants c'est triste. Bon, une fois qu'on a dit ça, surtout qu'en général on s'adresse à un public conquis d'avance, est-ce qu'on fait beaucoup avancer les choses? J'en suis pas certain. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas, par exemple chez Frank Smith, des choses très 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 intéressantes. J'ai tendance à être un petit peu en retrait par rapport à ça, même si je pense, comme on l'a vu avec les quatrains, que j'ai une parole politique. De toute façon, à partir du moment où on écrit de la poésie, c'est Thomas Vineau, j'ai relu ça récemment dans le Matricule des Anges, qui disait qu'à partir du moment où on écrit de la poésie, je ne sais plus quels sont ces termes, mais enfin on s'engage dans quelque chose de différent. On est dans un acte de résistance, parce que sinon il suffit d'écrire, on peut écrire des slogans publicitaires ou des discours politiques, là on sera dans quelque chose de beaucoup plus normé. Donc la poésie, forcément, sinon c'est pas de la poésie, Elle ne peut dire que quelque chose de subversif. Pessoa, c'est subversif, par exemple. Même si on ne peut pas imaginer une personne aussi plan-plan que Pessoa. Il suffit d'ouvrir un livre de Pessoa, on est complètement remué, quoi. C'est révolutionnaire. Je crois que la poésie, c'est le lieu de la subversion. Elle est peut-être, pour en revenir à ce que je disais par rapport à la poésie documentaire ou la poésie engagée, etc., elle ne l'est peut-être le plus que lorsqu'elle semble le moins l'être. Voilà.
Je rappelle que vous écoutez Les Mots d'Azur ou la poésie en direct. Je suis aujourd'hui à Nîmes avec le poète Guillaume Bopp. Et puisque nous parlons des quatrains propagande, nous allons écouter un extrait. Il s'agit d'une lecture enregistrée le 17 avril 2018. Je précise, et vous précisez Guillaume, en début de lecture, que le 17 avril 1975, une armée de Khmer Rouge ont annexé la ville de Phnom Penh au Cambodge et que la lecture est dédiée à la mémoire du peuple cambodgien ainsi qu'à la mémoire de Maria Soudaïeva, sans qui les quatrains que nous allons entendre n'existeraient pas.
Corrige lentement ceux qui te trompent afin qu'ils avancent vite. Avance lentement ceux qui te corrigent afin qu'ils trompent vite. Trompe lentement ceux qui t'avancent afin qu'ils corrigent vite. Corrige lentement ceux qui t'avancent afin qu'ils trompent vite. Change le peuple s'il pense mal. Pense le peuple s'il change mal. Pense le change s'il peuple mal. Peuple le change s'il pense mal. Que tes œuvres décrivent la réforme intérieure de ceux qui luttent. Que tes luttes décrivent l'intérieur réformé de ceux qui œuvrent. Que tes intérieurs décrivent l'œuvre réformée de ceux qui luttent. Que tes luttes décrivent l'œuvre réformée de ceux qui intériorisent. Refonds-toi longuement pour ne faire qu'un avec tous. Fais-toi longuement pour ne refondre qu'un avec tous. Pour refondre longuement, ne fais-toi qu'un avec tous. Pour ne refondre, fais-toi longuement qu'un avec tous. Change tes sentiments et tes pensées afin que tes œuvres soient comprises par tous. Change tes œuvres et tes pensées afin que tous soient compris par tes sentiments. Change tes pensées et tous, afin que tes œuvres soient comprises par tes sentiments. Change tous et tes œuvres, afin que tes sentiments soient compris par les pensées.
Si vous ne le saviez pas encore, vous écoutez le poète Guillaume Bopp, qui est mon invité aujourd'hui dans l'émission Les Mots d'Azur. Nous parlons de quatrains propagande, et vous dites devoir certains quatrains à Maria Soudaïeva. Alors, qui était-elle ?
Alors Maria Soudaïeva était une poète militante post-exotique qui a fini ses jours en prison, je crois. C'est une militante très subversive. Elle a laissé des slogans traduits et édités chez Gallimard il y a peut-être une dizaine d'années. Et j'ai été très marqué par ces slogans, qui sont des phrases très poétiques. Et c'est vrai que, d'une manière ou d'une autre, ils m'ont un peu servi d'exemple pour la manière que j'ai eu de travailler sur les quatrains propagande. C'est pour ça que j'ai dédié le livre à Maria Soudaïeva, parce que c'est sûr que sans elle, les quatrains n'auraient pas vu le jour, ou pas de cette manière-là.
Alors, on a dit poète russe, qui serait né en 1954 et se serait suicidé en 2003. Et c'est Antoine Volodine, écrivain français ayant fait parler de lui à plusieurs reprises et lauréat du prix Médicis en 2014, qui est le père de la notion de post-exotisme. Vous avez prononcé le mot, Guillaume, tout à l'heure. Et ce serait lui donc qui aurait récupéré le manuscrit de Slogan après la mort de Maria. Moi, j'en sais pas plus. Certains disent qu'elle n'a jamais existé. Il n'y a pas de photographie, il n'y a pas d'autres documents officiels, bref. Et donc Maria Soudaïeva serait pour les sceptiques un hétéronyme d'Antoine Volodine. Un mystère encore donc autour de cette œuvre poétique et politique totalement originale. Et un mystère de plus aussi attaché au personnage d'Antoine Volodine que j'ai eu le plaisir de rencontrer et que vous connaissez vous aussi, Guillaume.
Alors j'ai eu le plaisir de rencontrer Antoine Volodine, de le rencontrer en chair et en os, quand j'avais été invité à un festival à Quimper, où Antoine était invité à lire sa poésie. Alors dans ce festival, les auteurs invités devaient se plier à ce jeu assez plaisant de lire accompagné par un artiste. Donc ça pouvait être un danseur, un musicien. Et Antoine Volodine a demandé à lire accompagné par l'obscurité. Donc il a lu dans le noir complet, et c'était très bien. Alors je dis que je l'ai rencontré en chair et en os en ce moment-là, mais je le fréquente pas en tant que lecteur depuis beaucoup plus longtemps. Et puis il se trouve que j'ai pas mal travaillé avec un musicien qui s'appelle Denis Fragerman, qui lui-même a composé des ensembles musicaux autour de l'œuvre, inspirée par l'œuvre de Volodine. Il a même travaillé avec lui, ils ont fait de la scène ensemble, ce qui est assez remarquable quand on sait la méfiance que peut avoir Antoine Volodine par rapport à la lecture publique. Et donc je fréquente un peu le monde post-exotique depuis ma rencontre avec Denis au début des années 2000.
Alors vous parliez de collaboration, enfin de lecture qu'on pouvait faire avec un autre artiste. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre travail en collaboration avec Pascal Deleuze, par exemple ?
C'est un musicien qui travaille principalement à partir de la trompette, l'instrument la trompette. Et très vite, il m'a proposé de mettre en son, d'accompagner certaines de mes lectures. Donc nous sommes intervenus quelques fois, pour l'instant dans la région, à Nîmes et puis à Montpellier. Et j'aime beaucoup travailler avec lui. Pascal, c'est quelqu'un qui travaille complètement au sentiment, à la sensation, à l'oreille. Alors ce qui fait que c'est assez intéressant de travailler avec lui parce que, par exemple, on peut répéter pendant des semaines et trouver ce que lui il appelle un dispositif. Et puis le dernier jour, il change complètement et il fait complètement autre chose. Et puis ça fonctionne très bien.
Je pense qu'il travaille un petit peu dans l'esprit des musiciens bruitistes, non ?
Complètement. Il revendique tout à fait la filiation avec le manifeste futuriste de l'art des bruits, l'art du bruit, je ne sais plus le titre exact. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il appelle la patte sonore. Il ne recherche pas l'illustration sonore de ma poésie, mais vraiment de mettre une patte qui entre en résonance avec la patte de mes mots.
Alors Guillaume, j'en ai parlé en vous présentant tout à l'heure. Vous avez aussi collaboré avec Mathias Debrenne, qui est écrivain, scénariste, de votre génération, à peu près du même âge. Comment écrit-on à quatre mains ? Comment avez-vous procédé ?
Nous avons sorti un livre, Mathias Debrenne et moi, en 2010, à la Nuit Myrtide, une petite éditeur du nord de la France, très 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 sympathique. Au demeurant. Donc un livre qui s'intitule « Études de chaos ». Et alors là, comment nous avons procédé ? C'est l'inverse donc de mes livres totalement personnels. Nous étions en train de prendre un verre. À l'époque, Mathias habitait Barcelone. Et nous prenions un verre dans un très charmant lieu. Et Mathias a pris un stylo, il a pris un bout de papier, et puis il a noté « Études de chaos ». On va écrire un livre qui s'appellera comme ça. Bon. Et du coup, je suis rentré à Nîmes suite à mes vacances à Barcelone. Et je lui ai envoyé un premier texte qui est sorti un peu comme inspiré par le titre. Et Mathias m'a renvoyé, donc on procédait par mail, m'a renvoyé un texte en réponse. On a correspondu, pas très très longtemps, le livre est pas très épais, il doit y avoir une cinquantaine de pages, on a dû correspondre un ou deux mois comme ça. On a réuni les textes, on a finalement assez peu eu besoin de retravailler. Là, il n'y a pas eu les 25 relectures. Et donc, Dimitri Vazemski, La Nuit Myrtide, était partant pour éditer ce texte. Et dans nos cartons, on a une suite, d'ailleurs, mais qui n'a pas encore trouvé preneur, qui s'appellera Le Versant Mort. Voilà, c'est encore une idée de Mathias. Il a, lui, le chic pour trouver les titres, avant même d'écrire les textes.
Toujours en vous présentant, au début d'émission, j'ai cité la revue Stalker. En anglais, le mot signifie « harceleur ». Quand il s'agit d'un film, il est signé Andrei Tarkovsky. Et c'est un chef-d'œuvre. Est-ce que le titre de la revue se réfère soit au phénomène, au processus de harcèlement, soit, comme dans le film, à la chambre des désirs qui exauce tous les vœux de ceux qui s'y rendent ?
C'est vrai que c'est une très belle écho au film de Tarkovsky, ce que vous venez de citer. Ben oui, la revue à l'époque était dirigée par Estelle Fialon et Stéphane Collin, que je salue si jamais ils m'entendent. Cette revue était vraiment rédigée sous l'égide de Tarkovsky, dont Stéphane, entre autres, était un grand admirateur, ou est toujours un grand admirateur. Il y avait dans l'idée, alors je ne sais pas si dans le terme stalker, il peut y avoir aussi l'idée de passage. En tout cas, c'est ce qui est dans le film. C'est vraiment une question de passage. Et donc l'idée, c'était que cette revue soit, comme toute revue devrait l'être d'ailleurs, un moyen de passage entre les artistes invités et les lecteurs, et puis aussi de passage entre les artistes eux-mêmes, ce qui a permis, c'est comme ça que j'ai rencontré Mathias Debrenne, que j'ai rencontré Denis Fragerman, d'autres personnes comme Charles Penquin, Antoine Bout, et j'en oublie...
Julien Dabrigeon.
Et Julien Dabrigeon aussi, effectivement, à l'époque. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de beau monde qui est passé par cette revue et qui avait vraiment ce rôle de lien entre les artistes, les auteurs.
Les artistes que vous avez cités, en tout cas au minimum Charles Penquin et Antoine Bout, et Julien Dabrigeon, qui habite pas très loin d'ici non plus d'ailleurs, hein, qui fait un boulot formidable en tant qu'enseignant, et ils sont classés en tout cas dans la catégorie des poètes sonores. Est-ce que c'est le sonore de leur poésie qui vous rapproche d'eux, ou bien...
C'est une question que je me pose souvent, en fait. Parce que c'est vrai que ma poésie n'a, je crois, pas grand-chose à voir avec celle d'Antoine Bout, ni celle de Penquin. Alors c'est peut-être pas tant la sonorité que ça, finalement. C'est pas forcément ça qui m'attire dans l'écriture d'Antoine Bout, par exemple. C'est vraiment plus le fond du propos. En fait, ce qui m'intéresse, c'est quand des voix parlent une langue qui est complètement étrange. C'est le cas d'Antoine Bout, c'est parfois le cas chez Penquin. Quand on entend, alors c'est vrai que c'est en ça que c'est sonore, c'est que c'est souvent des lectures qu'on entend. Quand on entend ou quand on lit donc ces voix-là, on saute dans un autre monde, quoi. On fait le pas de côté dont je faisais parler Thomas Vineau tout à l'heure. Ce qui fait que on peut se retrouver... Enfin, moi, je peux me retrouver complètement conquis par des autres, dont l'écriture est pas proche de la mienne, quoi, a priori.
Moi, quand on me parle d'Antoine Bout, je vois quelqu'un qui est à la fois très mature et très fin dans sa réflexion, et en même temps avec une forme de naïveté et de fraîcheur absolument merveilleuse. Donc je recommande aux auditeurs d'aller chercher sur Internet, d'écouter des gens comme Charles Penquin, Antoine Bout ou Julien Dabrigeon. Alors je vais lire maintenant une forme de résumé de synopsis. Un 24 décembre, Lucas erre dans Paris à la recherche de quelques amis, mais il va de déception en déception. Il se réfugie alors dans ses souvenirs. Souvenirs de sa jeunesse passée en compagnie de Joss, compagnon maléfique qui n'a eu de cesse de le pousser à la débauche. Souvenirs de sa sœur, Amélia, morte noyée. Bientôt, Lucas perd pied avec la réalité et s'ouvre à son propre univers intérieur, traversé de mythes et de rites crépusculaires. Ce résumé est celui de votre roman intitulé Quicksands, que vous avez écrit et qui est paru en 2003 aux éditions Le Manuscrit. Je me demande si, là-dedans, on ne trouve pas déjà tout ce que votre poésie contient.
Alors c'est amusant que vous parliez de ce roman. Il a été édité donc par le Manuscrit. Alors c'est pas une maison à compte d'auteur, je tiens à le préciser. C'est quand même une nuance fort importante. C'est une maison qui existe toujours d'ailleurs, qui publie des choses fort intéressantes, entre autres des mémoires, si je ne m'abuse, des mémoires de déportés, des choses comme ça. Et donc à l'époque, le principe de cette maison, c'était de faire des impressions à la demande, et sinon de communiquer sur Internet. Enfin, c'était l'époque où Internet démarrait. Ce qui fait que ce roman existe sans vraiment exister. Je regrette pas tant que ça qu'il n'existe pas tout à fait, parce que c'est une œuvre de jeunesse. Je sais pas s'il tient tant la route que ça. Quoique, quand j'écoute le résumé que vous venez de lire, je trouve ça pas mal. Et je me dis qu'en tout cas, quelles que soient ses faiblesses, il porte en lui les germes de ce que j'ai ensuite développé dans mon écriture, peut-être de manière plus aboutie. Il est intéressant que je sois passé d'un désir d'écriture romanesque à l'écriture poétique, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'arrivais pas vraiment à écrire de roman et que finalement, ça m'intéressait pas tant que ça. Et je comprends maintenant, avec le passage des années, que ce sont deux exercices, enfin deux formes artistiques, l'écriture fictionnelle et l'écriture poétique, qui n'ont souvent strictement, je dis souvent, pas toujours, rien à voir.
Alors, j'aimerais à présent vous entendre lire ce poème de la désertion.
Les camions sur l'avenue en bas, sous la fenêtre comme un cadre de gris froid, la buée du dedans, du dehors, la terrasse qui rétrécit, au loin, parce que si on se glisse dans le jardin, esprit sans affaire dans l'air que regarder, alors tout s'en va, surtout ce balcon, avec sa table et les choses posées dessus, l'appartement qu'on laisse chaque jour en marchant, puis, tous les instants, immobile comme si tout s'arrêtait de bouger, alors que tout fonce et rentre dans tout, arrache la peau de tout, le train qui longe la ville, qui cherche à ne plus voir, mais qui, sur chaque fauteuil, pose l'ombre écroulée d'un passager, son regard creux dans la vitre, c'est le pays qui se couche dans les rues, les routes et tout ce qui brûle avec la peau, sans même le vouloir, la peau, des joues, des visages qui ne répondent pas, qui n'entendent plus. C'est un chaos de légendes mornes, et c'est surtout l'ennui, ses doigts sur la terre qui tremblent et ne dit rien de plus que montrer les dents. C'est le retour à la maison qui se moque de toi.
Donc, moi, ce qui m'a frappé, c'est cette fin, cette chute. C'est le retour à la maison qui se moque de toi. Ça déstabilise quand même un petit peu, et il y a cette description assez terrible d'un quotidien éprouvant, et du monde comme il va, et vous dites aussi, c'est surtout l'ennui. Est-ce que le monde dans lequel nous vivons, tel que nous le connaissons, vous pèse, Guillaume Bopp ?
Alors le monde tel que nous le vivons, tel que nous le connaissons, le monde comme volonté, comme représentation, comme dirait l'autre. Oui, oui, Schopenhauer, pardon, oui, l'autre. Là aussi, c'est assez abyssal comme question. Mais en gros, est-ce que le monde me pèse ? Oui, bien sûr, oui, oui, oui. Bah, si j'ai écrit donc ce principe de réalité, c'est sans doute pas par hasard. Je crois que si je suis autant attaché au fait de me déplacer, d'aller chercher partout, ailleurs, nulle part, des éléments pour écrire, c'est bien parce que j'ai besoin de fuir une réalité. Et peut-être d'en construire une autre, d'une certaine manière, par l'écriture. Évidemment, dans une époque qu'on peut oser appeler apocalyptique comme la nôtre, oui, ce serait difficile de ne pas trouver le monde pesant. Je suis toujours assez fasciné par les personnes qui ne sont pas angoissées par ce que nous vivons, mais je pense qu'elles n'existent pas, c'est-à-dire que les personnes qui ont l'air de ne pas être angoissées le sont, en fait. Enfin, c'est normal, on est humain quand même.
Oui, alors on est complètement inconscient, ou alors on adhère complètement au mouvement qui est impulsé à l'heure actuelle.
Enfin, après, c'est la question de l'aliénation, mais même quand on adhère complètement au mouvement, je ne suis pas sûr qu'on soit forcément très, très heureux de cela, quoi. Pour en revenir à l'écriture poétique et à la poésie, alors c'est toujours un peu tarte à la crème et paraît toujours un peu naïf. Les moments où je retrouve une forme de puissance de vie, c'est quand je vibre autour de la poésie, quoi. Grâce à la possibilité de lire des auteurs et moi et d'écrire à mon niveau. Ça, c'est quand même le miracle de l'art, quoi.
Alors, vous n'êtes ni complètement désabusé, ni dans une impulsion, vous n'êtes pas non plus un révolté. Donc, comme vous le dites, le seul endroit c'est, pour être bien, c'est la poésie, quoi.
En ce qui me concerne, oui, oui, oui. Je pense même... c'est le rapport à l'intériorité, c'est le rapport à la beauté, encore des mots un petit, qui font un peu old-fashioned, mais je suis toujours surpris. J'organise des lectures de poésie, je lis moi-même ma poésie, enfin je vais souvent entendre des auteurs lire. Je suis toujours très souvent surpris par la réaction du public qui dit « Ah, mais ça c'est... Je savais pas que la poésie c'était comme ça, je savais pas que ça pouvait faire ça. » Je suis toujours surpris, quoi. Et c'est très rare que les gens, ne réagissent pas. Quand on lit un poème à quelqu'un... c'est très rare que la personne reste de marbre, même si ça peut être une réaction très négative. Quand on met le pied dans la poésie, on est sûr qu'il va se passer quelque chose, quoi. C'est pas comme quand on met les pieds dans un supermarché. On gagne quasiment à tous les coups, quoi.
Dans ma présentation, encore une fois, je disais que vous aviez poursuivi des études de philosophie. Qu'est-ce que les études de philosophie apportent aux poètes ?
Alors, je me souviens que je crois qu'on avait étudié un peu les poésies que Heidegger s'était risqué à écrire, je crois, et que c'était vraiment pas, c'était pas jojo, parce qu'essayer de mettre de la philosophie en sous forme poétique, c'est pas toujours très, très réussi. Enfin, bon, après, des gens comme Hölderlin, ils se débrouillaient quand même pas mal, mais bon, bref, Heidegger, c'était pas très réussi. Je m'éloigne un peu de votre question, excusez-moi. C'est parce que je me souviens de mes années d'études, alors forcément, voilà. plus sérieusement, la philosophie, c'est peut-être pour ça que j'ai pris l'exemple de Heidegger, c'est-à-dire qu'elle permet de structurer la pensée, d'essayer de savoir réfléchir sur le monde, et en même temps de savoir ce qu'est la poésie, c'est-à-dire que la poésie n'est pas la philosophie, la poésie est un pas de côté. Encore une fois, ce pas de côté par rapport au langage rationnel, qui n'empêche qu'il peut y avoir des ponts, évidemment. Il y en a continuellement entre la philosophie et la poésie. Je ne veux pas dire le contraire. C'est assez fascinant d'ailleurs, parce que quand la philosophie devient poétique, c'est quand on arrive à en prélever des fragments, certaines phrases énigmatiques, en fait. C'est-à-dire que l'énigme, la chouette de Minerve, etc., et de Hegel, l'énigme est pour moi primordiale dans la poésie et dans la parole philosophique. C'est-à-dire que quand on lit un philosophe, en général, on est devant, en tout cas au premier abord, devant une parole énigmatique. Ce sont deux types de langages qui ne sont pas les mêmes, mais qui interrogent peut-être d'une manière pas si éloignée, finalement.
Alors après, il y a l'exemple de Philippe Beck, qui fait des concepts des personnages et qui écrit des poèmes à partir de ça.
Je dois vraiment battre ma coulpe, je connais très très peu la poésie de Beck. C'est vrai que je suis jamais vraiment rentré dedans. Il faudrait peut-être que je m'y attaque plus. Peut-être parce que, justement, j'ai peut-être un peu de mal par rapport à la présence, à l'abstraction un peu philosophique qu'on peut trouver dans sa poésie. Je saurais pas trop le dire mieux, puisque, encore une fois, je connais assez peu. Mais ça me fait quand même rebondir sur quelque chose, dire que là, par exemple, je vais me dire, tiens, je vais lire Beck. Et peut-être que je vais avoir une bonne surprise par rapport à ce que j'avais ressenti il y a quelques années. Et ça, c'est une chose, un petit message que je voudrais donner aux auditeurs par rapport à la lecture de la poésie. C'est qu'il y a parfois des auteurs qui attendent leur moment pour être lus. Et il y a des auteurs que j'adore et qui me tombaient des mains il y a quelques années.
La tradition dans cette émission veut que l'invité partage avec les auditeurs une chanson, un morceau de musique qui l'accompagne dans son travail, ou qui a une signification particulière, ou qui symbolise quelque chose de fort. Quel est le morceau de musique, ou quelle est la chanson que vous nous feriez entendre, Guillaume Bopp? Et pourquoi ce choix?
J'ai un petit peu réfléchi à plusieurs choses, plusieurs morceaux. Mais je pensais à un morceau d'un groupe anglais qui s'appelle And Also the Trees, qui est un groupe qui m'accompagne depuis mon adolescence et qui est très très peu connu, si ce n'est quand même plutôt auprès du public français. Il est très peu connu en Angleterre et donc c'est un groupe qui pratique une forme de romantisme, là aussi un peu old-fashioned, mais avec des textes très très mystérieux. Et donc je voudrais faire partager aux auditeurs peut-être leur tube, voilà, un morceau plus connu, et que comme c'est un groupe qui n'est en revanche pas très connu, peut-être pas mal des auditeurs ne connaîtront pas.
Eh bien, nous allons écouter le groupe And Also the Trees, dans sa traduction Et les arbres aussi. La chanson s'intitule Dialogue et c'est le choix musical de mon invité, Guillaume Bopp.
choose the fruit. All the things I say, all the things I say to you.
Vous venez d'entendre Dialogue, une chanson du groupe And Also the Trees, et c'était le choix musical de mon invité, le poète Guillaume Bopp. J'imagine que vous avez de nouveaux projets, des écrits en cours. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Ah, alors des projets en cours, oui, j'en ai, j'en ai toujours. Il y a un ensemble de textes que j'ai réunis récemment. Pour lesquels je suis en train de voir s'il est possible de les faire éditer, dont certains sont parus dans un petit fascicule en début d'année au Caillou du Chemin, petite maison d'édition, quelques textes qui font partie d'un ensemble beaucoup plus important. Donc ça c'est en cours d'édition probable. Et après, je suis en train d'essayer de me remettre à une écriture, enfin une forme de prose en fait, voilà, qui n'est pas du tout romanesque, voire ce que j'ai dit précédemment, mais qui est plutôt une prose poétique, on va dire. Mais enfin, c'est encore une fois, c'est assez. Je suis sur plusieurs projets, mais c'est toujours un petit peu difficile d'en parler tant qu'ils n'ont pas abouti, parce que après, au bout de 25 fois, ils finissent par prendre une forme particulière.
Comme vous le savez, 55 minutes, c'est court. Finalement, le temps passe vite, et il va me falloir rendre l'antenne. Je vous rappelle la date du 15 septembre. Au château de Monsartou, à 19h, Sabine Venaruzzo performera sa poésie dans une première partie, puis une deuxième partie avec la musique et la troisième partie avec la scène ouverte, comme régulièrement se déroulent les lectures au château de Mons organisées par les Mots d'Azur. Guillaume, il me reste à vous remercier chaleureusement pour cet entretien. J'espère que les auditeurs, eux aussi, auront appris des choses, parce que les réponses étaient riches. Merci de nous avoir fait découvrir votre univers, d'avoir partagé toutes ces réflexions, ces souvenirs. Un univers qui participe à la richesse du paysage poétique francophone. Au revoir Guillaume et bonne continuation à vous. Chers auditeurs, allez courir chez votre libraire, procurez-vous les livres de Guillaume Bopp. Ça vaut le détour, je vous assure. C'était Les Mots d'Azur, ou La Poésie en direct, une émission consacrée à la poésie contemporaine, réalisée et animée par Béatrice Maché. Je vous retrouverai le mois prochain avec un nouvel invité et nous poursuivrons notre visite du paysage poétique francophone. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.